Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Après la parenthèse consacrée au film d'animation Rango de la dernière chronique, je reviens au déroulement prévu des chroniques westernosophiques avec un regard porté sur quelques films pro-indiens, quelques films favorables aux Indiens, en s'interrogeant sur les rapports entre l'art et la morale. Autrement dit, et pour le dire abruptement et pour le dire presque comme un sujet du baccalauréat, puisque c'est de saison, peut-on attendre de l'art un enseignement moral ? Peut-on attendre de l'art un enseignement moral ? Alors, pour répondre à cette question, on pourrait comparer deux films de 1950, dont j'ai déjà parlé, deux films classiques de ce qu'a été le mouvement de réhabilitation de l'Indien dans le western, La Flèche brisée de Davis et La Porte du Diable de Mann, d'Anthony Mann. Alors, devant La Flèche brisée, le spectateur peut ressentir un certain malaise. En effet, le film est plein de bons sentiments. Il est donc destiné à réhabiliter les Indiens, mais justement, il est tellement bon et plein de bons sentiments qu'il prend un aspect très didactique, très insistant. Et on a presque l'impression, en le voyant, d'avoir affaire à une œuvre de propagande, alors qui certes est peut-être mise au service de la bonne cause, ou en tout cas de ce qui peut nous apparaître comme tel, mais qui relèverait quand même de la propagande. On peut citer par exemple comme scène très insistante la fameuse scène où Cochise brise la flèche, d'où le titre du film, et prend à la place la carte du futur territoire, c'est-à-dire l'objet du compromis. Le compromis remplace la guerre. Ici, c'est très très insistant, on est un petit peu dans l'image d'Épinal, et même si c'est au service, encore une fois, d'une noble cause, l'impression qu'un film se réduit à son message nuit à sa qualité proprement artistique. D'ailleurs, on pourrait se demander, si on attend de l'art un enseignement moral, est-ce que les artistes sont des êtres particulièrement moraux pour se permettre et pour s'autoriser à nous dicter quelque chose en matière de morale et en matière de distinction du bien et du mal.
Mon frère blanc veut vous parler. Ce que je tiens dans la main est une carte. C'est une sorte d'écriture par l'image. Ça montre quel sera le territoire Apache, 50 000 milles, comme vous avez accepté. Cette feuille de papier va retourner à Washington, où demeure le chef de tous les Blancs. Si vous signez le traité de paix, cette carte fera partie du traité.
Les œuvres didactiques, comme La Flèche brisée, suppose en fait deux choses. Elle suppose, je pense, une conception unifiée et homogène de ce qu'est un sujet agissant et pensant, un individu. Et puis elle suppose aussi une distinction claire entre le bien et le mal, entre les bons et les mauvais. À cet égard, il me semble que les œuvres les plus intéressantes sont au contraire celles qui produisent plutôt un trouble moral, une inquiétude, plutôt qu'un enseignement moral, et celles aussi qui mettent en scène des sujets éclatés, des sujets en quête de leur unité, des sujets essayant de réunir ce qui est épars. Citons à cet égard donc La Porte du Diable, également 1950, Anthony Mann. Dans ce film, il y a Coulan, un homme, et Mademoiselle Masters, une femme. Alors Coulan, c'est une figure assez monolithique, qu'on pourrait qualifier de figure du méchant. Mais par contre, Masters est une figure plus ambiguë. Entre les deux avocats, on peut dire qu'il y a deux visions différentes du droit qui s'opposent, et même deux visions, de ce qui est juste au sens du légal ou au sens du légitime. Et d'ailleurs, Lance Poole, le personnage principal du film, à un moment, conteste l'obéissance automatique à la loi en disant justement ça évite les cas de conscience. Et Mademoiselle Masters, l'avocate, eh bien justement c'est un personnage qui est plongé dans le cas de conscience. Elle ne sait pas vraiment ce qui est le mieux, ce qui est le meilleur. Elle s'interroge notamment sur la légitimité de la violence. Elle manifeste en fait ce qu'on pourrait appeler une inquiétude éthique, une inquiétude éthique. Et c'est la même chose pour Lance Poole d'ailleurs. Hein. Lui-même ne sait pas trop ce qu'il doit faire, ne sait pas trop quel est son devoir. Et cette incertitude sur ce qu'est son devoir est relative à une difficulté à être soi-même, à unifier sa propre subjectivité. On pourrait citer à cet égard un plan très intéressant où il ressemble quasiment à un profil de médaille, à une sculpture indienne comme ça, où il tend à se transformer comme ça en objet. On pourrait citer aussi le tout dernier plan du film où Lance Poole donc, s'est laissé pousser les cheveux comme un indien, mais où il remet sa veste de soldat américain, et comme s'il voulait montrer par là qu'il y a une impossible synthèse en fait entre ces deux aspects de sa personnalité.
Malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle. Votre demande pour garder ce domaine a été rejetée. En tant qu'Indien, vous n'êtes pas qualifié pour être propriétaire.
Pourquoi ?
Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas... C'est la loi.
Oui.
Selon la loi, vous n'êtes pas reconnu comme citoyen américain.
Qu'est-ce que je suis ?
Vous êtes sous la tutelle du gouvernement.
C'est ça, la loi.
Je suis navré, Monsieur Brooke.
Alors, ce thème de la difficulté à être un sujet, de la difficulté à se saisir soi-même dans son unité, va bien sûr se généraliser avec la crise de la phase classique du cinéma hollywoodien, notamment avec la crise du western hollywoodien classique, et avec l'émergence de ce qu'on a pu appeler le nouvel Hollywood, au tournant des années 60 et 70. Pour illustrer ce tournant, on peut citer un film de 1970, justement, auquel j'ai déjà fait allusion dans d'autres chroniques, Un homme nommé Cheval, d'Eliot Silverstein, un très bon film, qui raconte là aussi les métamorphoses d'un individu et qui montre le caractère insaisissable du moi. On peut par exemple revenir sur la scène de la capture, puisque c'est l'histoire d'un lord anglais qui est capturé par des Indiens. Et la scène de la capture est très symbolique. Il est capturé alors qu'il est nu, dans l'eau, il est en train de se laver, et comme un enfant en fait, comme un bébé qui naît. Et d'ailleurs, le lasso qu'il attrape pourrait ressembler à un cordon ombilical. C'est comme si le personnage ici vivait une deuxième naissance en fait. Hein. Cette mort symbolique et cette renaissance, elle s'exprime aussi par sa réduction chez les Indiens à un état animal. Ils font marcher par terre, ils le traitent comme un animal, d'où le titre, hein, un homme nommé cheval. Donc il faut qu'il meure d'une certaine manière pour pouvoir renaître en tant qu'Indien. Et toutes ces scènes d'ailleurs de mort et de renaissance sont intéressantes parce que Silverstein les signe les films de manière assez intéressante. Le spectateur participe vraiment au trouble de la perception du personnage avec des travelling très heurtés, des mouvements de caméra. Il y a quelque chose comme ça, de la désorientation hein, qu'on retrouve aussi dans la scène du rituel initiatique où vraiment il devient indien, où il y a des visions qui remplace la vue. Le personnage ne voit plus, mais il a des visions, avec quelques plans non figuratifs, et puis avec aussi une séquence en animation, hein, qui rompt donc avec la vision traditionnelle qu'on peut avoir du monde. Il y a ici une dimension proprement phénoménologique à ce moment du film, hein, puisque la phénoménologie finalement nous donne à penser que l'existence même d'un sujet est garantie par l'existence du monde dans laquelle il s'insère. Et dans ces scènes de troubles de la perception, eh bien la réalité du monde vacille et la réalité de la subjectivité, la réalité du sujet vacille elle aussi. Hein, on est ici dans le cadre de quelque chose qui relève de la perte de repère. Alors, il y a aussi dans le film de Silverstein une métamorphose classique. Hein. Le lord anglais se rase sa moustache pour ressembler à un indien, il se laisse pousser les cheveux. Et donc cette transformation du sujet est à la fois profonde, mais elle est inachevée. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de moi insaisissable, puisque, et c'est assez intéressant aussi dans la manière de filmer, le corps de Morton lui-même, qui est un blanc au milieu des indiens, eh bien, il apparaît toujours un petit peu comme une tache rose au milieu du monde des Indiens. Et donc Morton n'est plus tout à fait celui qu'il était. Il n'est plus un lord anglais, mais il n'est pas tout à fait un autre. Il n'est pas tout à fait devenu un Indien. Et donc, on a vraiment affaire ici donc, à une crise de cette idée de sujet absolument homogène, unifié, identifiable. Et cette instabilité, du moins, elle va être bien sûr creusée dans un autre film également de 1970, sur lequel je reviendrai dans la prochaine chronique westernosophique. Et ce film, c'est Little Big Man d'Arthur Penn.
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxième et quatrième dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.radiogrenouille.com.